Cahier, stylo,
le thé, c'est parti.
Bonjour et bienvenue dans Play Pause Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font.
Je suis boutabouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière.
C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques.
T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions.
T'es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça.
C'est mettre nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision.
Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment.
C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller.
C'est vraiment de l'ordre du ressenti et de l'émotion.
On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité.
C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais le même sujet et on s'enrichit tous les jours.
Play. Pause. Cut. La mode, c'est un peu le domaine de prédilection du monteur que vous allez découvrir aujourd'hui. Il travaille régulièrement avec Loïc Prigent sur des émissions comme 5 minutes de mode et sur de nombreux documentaires. Je le retrouve dans le 16e arrondissement de Paris, tout près de la maison de la radio, dans un immeuble high-tech et labyrinthique. On a parlé de Fashion Week bien sûr, mais aussi des réseaux sociaux, du petit journal ou encore de la puissance des images qu'on donne à voir. Bienvenue dans la salle d'Anthony Goujan.
Salut. Ça va ?
Ça va.
Bienvenue dans la maison.
La porte s'ouvre.
Là, t'as plein de salles de montage qui sont pour quotidien.
Ouais.
Il n'y a pas de fenêtre, comme beaucoup de salles de montage. Et ça fait une salle.
Trop bien. Oh, mais t'as une fenêtre, toi.
Avec une fenêtre et une des plus belles vues de Paris en salle de montage, la Tour Eiffel.
Carrément.
Je vais pas me plaindre. Non.
La vue de ouf sur la Tour Eiffel, quoi.
Bah, j'ai une superbe vue sur la Tour Eiffel. Ça me permet, quand il fait nuit, de voir les heures passer.
Ah oui, mais oui, avec le flash.
En fait, avec les flashs, comme je passe beaucoup de temps sur les écrans, on ne voit pas forcément le temps passer. Et ça, c'est un petit repère. Ça clignote. Ah, il y a une heure qui est passée.
Ouais.
Et surtout en hiver, tu te dis, c'est bon, au bout de deux clignotements, je peux rentrer me coucher. On évite de faire des nuits blanches.
Et là, je vois sur ton écran que c'est... C'est encore de la mode, du coup.
Et aujourd'hui, on est encore sur de la mode. Il y a les défilés qui ont commencé à New York. Donc, j'ai mon réalisateur, Loïc Prigent, qui est parti à New York. C'est un instit pour une maison de luxe. Et l'idée, c'est qu'il filme le processus de création, les fittings, les essayages, les retouches, les mannequins. Il fait des interviews des créateurs et des gens qui fabriquent, en fait, le défilé. Mm-hmm. Et on leur fait un report de cette séquence, quoi.
D'accord. Ok. Et ça, t'as combien de temps pour le faire ?
J'ai commencé à dérusher mercredi. Ils m'envoient les rushs dans la nuit. Le défilé, il est ce soir. Donc j'aurai les derniers rushs demain matin, fin de matinée. Et j'envoie une version 1 aux clients demain soir.
D'accord. Ah oui, c'est rapide.
Ouais, très rapide. Et en fait, ils ont besoin de ça hyper rapidement parce que faut communiquer tout de suite après l'événement sur les réseaux sociaux, sur leur chaîne YouTube. Et voilà.
Ok. Et tu le déclines du coup en plusieurs formats ou...
Il y a un format qui est une minute en fait, un report d'une minute. Et après, il y a des formats verticaux, carrés, qui vont aller sur toutes les plateformes, réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui le métier.
Ouais.
Il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que les documentaires. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux.
Est-ce que c'est pour ça que tu as tes écrans là en vertical? Parce que je vois que tu as deux écrans.
Ça, c'est la spécificité. C'est vrai que les gens, quand ils rentrent dans ma salle, ils disent « Mais attends, tu montes comme ça ?» En vrai, non, si j'ai mis mes écrans comme ça, c'est parce que quand je fais plutôt du documentaire, j'ai 25 pistes audio, 15 pistes vidéo, et ça me laisse un grand panel pour bien avoir toutes mes pistes et pas des mini-pistes, surtout quand je fais du prémix. J'aime avoir une latitude pour pouvoir mettre mes points clés, bien mixer, tout ça.
Ah,
et j'ai plus de place aussi sur la gauche pour ranger tous mes beans, tout nickel.
Ah, mais c'est trop malin en fait. j'avoue, j'avais jamais pensé, parce que moi je vire, en fait, je vire l'écran en haut et puis je mets ma timeline en plein pot sur un écran complet.
Mais tu mets où ton visualisateur?
Où je fais le prémix, quoi.
Ah ouais.
Donc, et du coup, le visualisateur, je le mets sur le côté, ou même je le mets en mini et je me sers que du... Enfin, quand je suis sur le son seulement, je le vire et je fonctionne qu'avec le moniteur.
Moi aussi, je fonctionne qu'avec le moniteur. J'ai quand même mes petites visu en haut pour la fenêtre de rush et puis voilà. Mais principalement, je ne regarde que le moniteur.
D'accord.
C'est mon petit truc atypique.
Ouais, non, mais c'est
trop. Au moins, ça fait parler quand les gens rentrent dans la salle.
Mais ouais. C'est cool.
Donc, ça fait 10 ans que je monte des documentaires, mm-hmm. principalement de mode. C'est parce que chez Bangoumi, il y a un réalisateur qui est arrivé, qui s'appelle Loïc Prigent, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Il y a la chargée de prod un jour de fin septembre, donc il y a quasiment 10 ans jour pour jour, qui me dit, voilà, un dimanche, ce réalisateur Loïc va filmer un défilé de mode. Les rushs vont arriver à 14h. Il va falloir monter le défilé et livrer au client à 18h30. Et j'ai fait OK. Si elle m'a demandé, c'est qu'elle pensait que j'en étais capable. Et j'ai dit OK, bon, bah, on va relever le défi. Et donc, je rencontre Loïc ce jour-là. Je monte le défilé de mode. Et à 18h30, je livre le DVD à la soirée chez le client.
Oui. Bravo.
Et il me recontacte sur un autre montage, mais peut-être 2 mois après. Alors, on est dans les couloirs, mais on ne travaille pas ensemble parce que je suis sur d'autres prods et je ne suis pas avec lui. Il a un projet qui tombe, pareil, c'est de la mode. C'était avec Karl Lagerfeld. Et c'est un backstage de shooting photo. Donc là, je monte ce truc-là. Et il me dit après, tiens, est-ce que tu as des dispos dans les semaines qui viennent? Je fais une émission documentaire qui s'appelle Habillé pour, mm-hmm. pour Canal+, avec Mademoiselle Agnès. Est-ce que tu connais? Moi, naïf, bah non, pas du tout. Est-ce que tu as quelques jours pour venir monter? Ok. Et en fait, j'y vais. J'ai pas regardé ce que c'était. Et j'y suis allé la fleur au fusil. Je me retrouve en fait tout seul en salle de montage. Parce que eux, donc Mademoiselle Agnès et Loïc, sont en train de tourner en même temps. Je reçois les images au fur et à mesure et je commence à dérocher ça. Donc c'était en mars 2013 et c'était mon premier montage documentaire pour Loïc.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours?
Pourquoi je fais du montage? Je fais du montage, ça arrivait un peu sur comme ça, un cheveu sur la soupe. Je ne m'étais jamais posé la question quand j'étais jeune, tiens, je veux faire du montage. Et c'est pas non plus un métier par défaut, je suis hyper content de le faire, voilà. J'étais au lycée et j'avais la chance d'avoir une option cinéma. Donc ça a commencé à la seconde, j'ai fait cette option cinéma, mais j'ai fait cette option par plaisir. Je vais découvrir des choses, je sais pas, je connais rien, j'ai pas une culture de fou. J'aime l'image, c'était ma seule sensibilité et je me suis dit ok, je vais sur ça. Je fais ma première année, seconde, je fais ma première, j'ai la chance d'aller au Festival de Cannes, j'ingurgite des films en 3 jours, et puis là, il se passe que, bah, en fait, t'es obligé de faire tes choix pour la suite, je sais pas ce que je veux faire. Et j'ai une camarade qui me dit, tiens, j'ai une porte ouverte au lycée de Boulogne, ils font des BTS audiovisuels. Est-ce que tu veux venir? Elle était un peu timide, je lui dis, bon, ouais, vas-y, y a pas de souci, je t'accompagne. Et j'arrive, donc c'était le lycée Jacques Prévert, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
J'arrive là-bas, et là, j'ai un coup de cœur. Enfin, les gens qui parlaient du cursus et du process, bah, ça m'a plu. Et tout de suite, je me suis dit, en fait, je veux faire un BTS audiovisuel, mais option montage. Mmh. Je reviens chez mes parents, on était en banlieue, donc je reviens vers, je sais pas, 14-15 heures. Et je dis à ma mère, maman, en fait, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux faire un BTS montage et je vais être intermittent. Et ma mère me regarde et dit, mais non, c'est bizarre. Elle a un coup de panique.
Ouais.
Et je lui dis, non, mais en fait, je vais réussir. Tous les BTS où j'avais postulé m'ont refusé. Et j'avais postulé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il y avait une licence cinéma et c'est là que je me suis dirigé.
D'accord. Donc, tu as fait parcours universitaire finalement.
Un début de parcours universitaire. Parce que au milieu de ma deuxième année de licence, il y a eu des grèves. C'était des grèves contre la réforme de Valérie Pécresse. Et ce qui fait qu'en janvier, il y a des mecs qui ont débarqué dans l'amphithéâtre pour dire voilà, en fait, on va fermer, on bloque les universités, ciao, bye.
D'accord.
Et toi, tu te dis, bah, en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai été au secrétaire, je leur ai dit, est-ce que je peux avoir une convention de stage? Et puis, YOLO, je vais trouver un stage.
Ouais, trop bien, oui, tu t'es pas laissé.
Et en fait, dans mon parcours, j'ai jamais eu de référent. J'ai personne autour de moi qui bossait en télé, et j'envoie je sais pas combien de CV. Et j'ai M6 un jour qui m'appelle. Je sors d'un entretien, le mec me dit, ah non, mais t'es trop jeune, parce que j'avais 20 ans ou 21 ans. Donc je suis déprimé dans le métro et je reçois un appel d'une personne qui me dit « Ah, est-ce que tu es dispo pour faire un entretien ?» Je lui dis « Bah ouais, quand ça ?»« Bah tout de suite. » Je fais « Ok, bah j'arrive. » Donc je vais à Neuilly et la fille me dit « Bah voilà, on cherche un stagiaire. » Mais on était un vendredi, elle me dit « On cherche un stagiaire pour lundi. » Il y a eu un micmac au RH, donc moi j'avais postulé pour des stages dans tous les domaines. Mmh. Oui, je voulais faire du montage. Mais je me suis dit, il me faut une porte d'entrée.
Ouais.
Donc là, c'était un stage en prod. Donc un peu de tout, mais rien à voir avec le montage. Et je me dépêche de finir tout mon taf de prod à chaque fois pour me laisser aller 2 heures dans la journée pour pouvoir passer du temps avec la chargée de post-prod, passer du temps avec les monteurs. Et c'est là que j'apprends, je commence à apprendre à vide avec mes premières digits. À l'époque, c'était en cassette. Donc on mettait des DV, des bêta, j'apprenais à traquer une cassette, voilà, je faisais ça. Je me suis dit, en fait, si à la fin de mon stage j'ai du boulot, tant mieux, je continue. Si j'ai pas de boulot, bah, je retourne à la fac et je finis ma licence.
Ouais.
Sauf que je suis jamais retourné à la fac.
Trop bien. Et donc ça fait combien de temps que tu es monteur?
Alors j'ai pas été monteur tout de suite. J'avais la volonté d'être monteur. Mais comme j'ai fait un stage de post-prod, à la fin de mon stage, on m'a embauché en tant qu'assistant monteur. C'était sur un dîner presque parfait, le combat des régions. Et en fait, au bout de 3 mois, il y a un monteur qui avait repéré comment je bossais et qui a donné mon contact au grand journal.
D'accord.
Si un jour je m'étais dit que je devais bosser en télé, le seul endroit qui me faisait kiffer, c'était le grand journal.
D'accord.
Et là, ça se présente. Je fais l'entretien avec la chargée de post-prod de l'époque, Valérie Després. Et ça match hyper bien humainement. Et puis le boulot, on était 3 assistants. On se répartissait le travail qu'il y avait. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à être plus efficace en montage. Parce qu'en fait, je touchais beaucoup plus les timelines.
Ouais.
Fallait sortir des timelines clean. Parce que bah, en fait, tu fais ton sujet et après il y a énormément de boulot d'archivage. Donc là en fait tu es vraiment sur la timeline, tu vois comment les autres monteurs travaillent, tu lis la timeline, tu essaies de comprendre. Et tous les vendredis, ou on va dire 2 fois dans la semaine, on tournait avec les 3 assistants, on montait la boîte à questions.
D'accord.
Donc qui était aussi un truc, bah, en fait tu es avec un journaliste et tu apprends à monter, quoi, et à être efficace, à couper dans un sonore. Donc j'ai appris à être hyper rigoureux, hyper exigeant. Je me suis nourri en fait de chaque perso que je rencontrais et j'essayais de tendre vers le monteur le plus parfait. Et à la fin de cette année, je m'étais dit « Ok, je suis assistant monteur, mais j'ai envie de faire du montage. Je pense que j'ai les capacités à ce moment-là et je me dis « Je veux passer monteur. » Et en fait, ils me retiennent et ils me disent « Anthony, on a un projet... pour la rentrée, le petit journal va se séparer du grand journal. On crée une boîte de production qui s'appelle Bangoumi et on a besoin d'un chargé de post-prod. Et donc je continue dans la post-production avant de passer au montage et je deviens chargé de post-prod de Bangumi la première année.
D'accord.
À la fin de l'année, j'explique mes envies futures, que ça sera que du montage et c'était le début de l'aventure.
D'accord. Donc sur le petit journal, du coup.
Petit journal, ouais, exactement. Okay. Vraiment mes premiers montages en tant que monteur intermittent tout seul, je les ai faits au petit journal.
D'accord.
Qui n'est pas un exercice hyper facile. Le montage, il n'est pas compliqué, mais ça m'a donné une autre corde à mon arc. C'est-à-dire que, ok, j'avais eu la rigueur en étant chargé de post-prod, tout ça. Mais là, avec, en montant le petit journal, j'ai travaillé ma dextérité. C'est-à-dire que, bah, en fait, comme on monte le jour même pour le soir même, bah, les sujets qui font 6-7 minutes, bah en fait, t'es obligé de les monter le temps qu'il y a la conférence de rédac, le temps qu'ils partent en tournage. S'il y a quelque chose qui débarque à 14h, en fait, t'as les rushs à 16h, sauf qu'à 19h, t'as l'antenne. Et ben, t'as 2h, 3h des fois pour monter un sujet de 3 minutes, 4 minutes.
Ouais, c'est vraiment le rythme news.
Un peu un rythme news.
Journal, quoi.
Enfin, news, mais même... en fait, c'est du news qui est plus. Parce que, y a, oui, il y a l'identité. De l'écriture, c'est un peu rythmé, c'est un peu tu t'amuses sur les illustres, c'est pas fou, mais faut que ça fasse, tu fasses un beau bonbon.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une écriture particulière du petit journal dont ouais. On se rappelle encore.
Exactement.
Qui a fait son succès d'ailleurs.
Mais donc j'ai fait du petit journal et je suis retourné aussi voir là où j'avais grandi en télé-réalité. Donc j'ai été monter des télé-réalités. Un dîner presque parfait, la meilleure boulangerie, Norbert et Jean, le bus de l'amour, enfin plein les princes de l'amour, plein de choses différentes. L'exercice le plus dur en télé-réalité, c'est pas raconter une histoire. T'as une matière qui est pas ouf, en condensé, ça devient un peu fou. L'exercice le plus dur, c'est vraiment la musiquer. En fait, toutes les 30 secondes, il faut mettre une musique différente. Et moi, au début, quand j'étais junior, vraiment, je me prenais la tête sur la musique. Parce que c'est que des musiques d'intention. Comme il ne se passe rien, il faut envoyer du lourd.
Ouais.
Et donc, changer les musiques toutes les 30 secondes, quand tu as un épisode qui fait 45 minutes, je te laisse faire un calcul, ça fait beaucoup, beaucoup de musique.
Oui. Tu dois être calé maintenant en recherche musicale. J'imagine que vous avez des banques de...
On a des banques de musique. Des choses, ce qu'on appelle dramédie, des petites musiques comme ça, et des musiques de tube. Je pense que c'est ça qui fait aussi un bon monteur, c'est être à jour sur la musique. J'ai tendance à plutôt aller regarder des trucs hyper récents, mais plein de styles différents. Il n'y a pas... Oui, j'ai des sensibilités, mais plein de styles différents pour... En fait, pas déjà mettre tout le temps les mêmes musiques. Et ça, c'est un point d'honneur que je fais. C'est si j'ai mis une musique sur un montage, je vais pas la recycler sur tous les autres montages. Sauf si c'est vraiment un grand écart avec les premières à en avoir et que ça fait 2-3 ans. Ou... Voilà, je vais pas recycler. Travailler, pour moi, travailler tout le temps avec la même musique, c'est un truc qui me rend fou.
Et tu avais déjà une sensibilité musicale de base ? Tu as fait un instrument, enfin, je sais pas, peut-être.
J'ai jamais fait d'instrument de musique. J'ai toujours été né en solfège. Je ne sais pas chanter. Je sais un peu danser.
T'as le sens du rythme, quoi.
J'ai un peu le sens du rythme. Mais ça, j'ai appris très tôt, et notamment sur mon premier montage, mais après, les gens que j'ai rencontrés en les voyant faire, le sens du rythme, mais en montage. C'est-à-dire que. Au début, maintenant c'est plutôt instinctif, mais au début, quand je posais une musique sur un montage, j'avais vraiment le coup du beat. C'est-à-dire que je mettais la musique et je faisais ça sur ma table de montage. Et en fait, ce rythme que je tapais, après je le répétais sur ma timeline avec des dits pour me dire « Ok, là je vais changer de plan, là je vais cutter, là je vais faire une commute. » Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus instinctif et avec les waveforms, tu le vois très vite. Si je monte, bah en fait, s'il y a un beat, je sais, je dis beaucoup beat. Mais s'il y a un beat, c'est là où je vais commuter, je vais changer. Après, c'est pas systématique parce que si tu fais ça une, deux, trois, en fait, ta mécanique, c'est facile. Après, tu essaies de tordre. Ben non, je vais peut-être changer de plan ou commis tous les 3-4 bits. Mmh. Et après, tu reprends un truc un peu systématique et 3-4 bits, tu recharges.
Mmh. Ok. Moi, j'ai un peu ça maintenant. Enfin, je trouve que dans les musiques composées à l'image, on va dire, il y a quand même un rythme qui est très régulier. Et moi, je me rends compte maintenant sur les documentaires que je peux monter sans musique. Et après, quasiment systématiquement, quand je pose la musique dessus, j'ai quasiment pas à retoucher, quoi. Parce qu'il y a, je sais pas, enfin, il doit y avoir un rythme d'image et de musique à l'image, un peu universel, je sais pas, qui fait que ça se colle tout seul, quasiment. Donc, mais je pense que, ouais, c'est comme tu dis, ça s'apprend aussi.
Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Mm. Et j'ai encore du mal, si j'ai pas de musique, à pouvoir monter. Alors que je sais que ça existe et t'apprends, t'habitues ton œil. Comme tu dis, tu peux monter sans musique. Parce que, voilà, il se passe des choses. Mais comme tu dis, les programmes que moi je montais au début, il se passe pas grand chose. Donc oui, je crée un rythme. Oui. Et j'ai ce truc-là, bah, quand je vais construire ma séquence sur la timeline, je vais poser tous mes in, faire un ours de mes in, et je vais poser ma musique, et je vais faire du coup ma structure, mon ours, et après là j'habille. Donc là je monte en fait en rythme, en musique. Donc ça c'était quand j'étais sur des montages hyper rythmés, et ce que je continue à fonctionner comme ça. Mais mon œil s'est habitué quand j'ai commencé à monter du documentaire. Là, ta narration, ta structure, tu l'as fait un peu plus différemment. Il y a des moments où il faut que tu te poses, tu es moins obligé d'aller cut. Même si mes documentaires, ils étaient quand même cut parce que la matière faisait que c'était cut. Non pas parce que c'était de la mode, mais parce que le rush, ça va hyper vite. Tu captes un moment, c'est pas des documentaires où tu as le temps de poser ton personnage, où le réal il a le temps de faire des choses. C'est, il capte un moment ce qui... Ce
oui, c'est sur le vif.
C'est sur le vif. Voilà.
C'était donc, des fait petits que documentaires de mode.
C'est ouais. Ça oui. Mais sur, les sur ces documentaires où ils capent le vif, j'ai pas un plan de 15 secondes. J'adorais avoir ça. Et tu dis, tiens, je me pose, mais en fait, j'ai des plans qui font 3 secondes. Mm. Donc, bah, en fait, à force, mes plans en montage, si je veux qu'ils soient propres, bah, à la fin, il fait une seconde. Et quand je te dis qu'il fait une seconde, des fois, il fait que des images. Mm. Parce que. Là, il est lisible, le plan en 10 images, mais le avant-après est crade. Mm. Donc, bah, ce qui fait que j'avais un truc rythmé et du coup, je le calais sur la musique. Et il y a un autre truc qui fait que mon œil s'est habitué par rapport à ce que tu disais sur le rythme sans montage. En fait, quand tu regardes les réseaux sociaux maintenant, tu regardes Insta, tu regardes TikTok, beaucoup tu regardes sans musique.
Ouais.
Et ton œil, en fait, il s'habitue à un rythme. Donc oui, le rythme il est beaucoup plus intense parce que les gens ils ont 7 secondes de concentration sur ces choses-là. Mais tu peux monter, oui, sans la musique, en donnant ton énergie, et après ta musique, oui, elle vient. Mm. C'est pour ça que moi, je sais que quand je cherche de la musique, j'ai besoin dans un premier temps de regarder les images. Donc j'ai pas forcément monté, mais en tout cas j'ai tout dérushé. Et... Il y a un truc mais qui est assez organique, je peux pas l'expliquer, j'ai pas forcément aussi les mots comme toi. Mais tu dis ok, là ça va plus tendre vers ça. Et donc je fais mes recherches de musique, je vais taper dans tous les styles. Sur un 52 minutes, en général je télécharge 130 musiques. Mm. Et donc là je vais te montrer, j'ouvre le projet, est-ce que j'ai tout bien rangé, je sais pas. Pas bizarre. J'importe mes musiques et je réécoute toutes mes musiques une par une. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai une colonne commentaire. Mm. J'écoute toutes mes musiques et je trouve que les musiques ont une couleur. Alors, j'ai pas de formation musicale. Mais voilà, je vais pas dire que je ferme les yeux, mais il se passe un truc dans ma tête. Et j'écoute une musique. Donc, je te mets celle-ci par exemple. Et moi, à côté, j'ai marqué beauté. Mm. Parce qu'il y avait un truc un peu enivrant. Si je te fais écouter celle-ci. À côté. Là, sur celle-ci, j'ai marqué défilé, drama puissant.
Oui, tu te mets toutes tes petites ambiances, tes petits, t'as ton petit code de référence, quoi.
Exactement. Et une dernière. Pour celle-ci, j'ai mis Sexy Soleil.
On s'imagine bien avec le petit cocktail, un petit parasol dans le verre.
En hiver, c'est pas mal.
Ouais. Et avant, t'avais une sensibilité pour la mode, tu t'intéressais déjà à la mode ou c'était pas du tout un truc, c'était pas ton univers, enfin...
J'avais, alors je veux pas dire que c'était mon univers, je suis pas quelqu'un habillé fashion, là aujourd'hui j'ai une casquette, j'ai un sweat.
Oui, mais c'est le nouveau code de la hype.
Non, oui, j'avais une sensibilité, j'aimais regarder ces belles choses. Mais je pense, et c'est ce qui fait ma force aussi en montage, c'est d'être curieux et d'être fasciné par les images qui sont en face de toi. Par exemple, si tu me dis d'aller vers du sport, demain tu montes un truc de sport, je vais plutôt avoir tendance à te dire non parce que ça va pas me passionner. Ça me fait pas rêver. Là, les images que je reçois en mode, bah, je suis captivé. C'est pas le côté glamour paillette. Et j'ai plutôt un truc, ça me fait rire, ça me fait rire les stars, ça me fait rire les créateurs. Mais c'est plus le côté histoire, beauté, savoir-faire, petite main, comment une robe qui a l'air si simple est fabriquée, avec tout le processus du dessin jusqu'au moment où c'est sur le podium. C'est plus ça qui me fascine. Et les techniques, voilà.
D'accord. Donc là, maintenant, t'es incollab depuis, parce que ça fait presque 10 ans, non ?
Ça fait 10 ans que je monte des documentaires de mode. Je pense que les historiens de la mode sont plus balèzes que moi. Mais j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de défilés, beaucoup d'archives. Et ça, c'est vraiment un puits sans fond pour moi. Je peux me perdre. Je suis fasciné par toutes les archives. Par le côté old school, par... comment tu regardes l'image, le regard que tu peux porter sur une image qui a 50 ans, qui a 10 ans, qui a un siècle. Ça me fascine. Et j'adore les notes d'archives.
Ah, moi aussi.
J'en fais pas assez, mais heureusement, parce que sinon t'as l'impression de vivre tout le temps avec des morts. Et c'est bien aussi de vivre avec des vivants. Mais ouais, c'est bien de temps en temps de jongler.
Ouais, après ça dépend de quelle époque,
mais après tu vois, avec tous les montages de mode que j'ai fait, où il y a beaucoup de dessinés et c'est beaucoup de reports d'une fashion week, donc on va dire que ça c'est j'ai pas le chiffre, 40%. Au final tu racontes l'histoire, ok, c'est quoi la collection, qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a un exercice qui est différent, c'est le tout archive. Quand on a fait le testament d'Alexander McQueen, en fait le mec il est plus vivant. Donc c'est comment raconter cette histoire. Donc Loïc, il a cette idée de génie de raconter McQueen à travers ses trois derniers défilés. Et donc ce qui fait que pendant trois semaines, en fait, je me tape tous les défilés, de son premier défilé à son dernier défilé. Je regarde tous les passages, toutes les silhouettes et toutes les archives qui existaient sur ce mec-là. Ça, c'était un boulot de ouf et hyper passionnant. Et j'ai passé trois bons moments. Si je vois une photo ou une robe, je vais pouvoir te dire de qui elle est, où était le défilé, et quand était le défilé, et c'est quelle saison.
C'est trop bien, c'est un vrai savoir de ta spécialisation, quoi. C'est, moi, j'ai un peu ça avec certaines archives de certaines époques. Je dirais, ça, c'était telle émission, années 70.
Mais ça aussi, c'est un truc du montant, mais parce qu'il faut avoir la mémoire. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans ta tête, dans des petits tiroirs, et après, tu fais des connexions. Et je pense que ça aussi, c'est ce qui me fait tenir dans le métier, et pourquoi aussi, je pense que je mets des guillemets, j'ai un bon monteur.
Oui, t'es un bon monteur.
Parce que, ouais, j'ai la mémoire. Il faut avoir une bonne mémoire et et surtout c'est plus une mémoire visuelle.
Ouais.
L'image, elle est hyper forte et quand je monte, je m'en rends compte encore plus de la puissance de l'image. C'est choisir le bon plan, c'est raconter la chose d'une certaine manière qui fait que bah, ça va impacter et les gens vont le retenir.
Mmh. Oui, c'est rendre spectaculaire. Et puis il y a un truc culturel aussi, patrimonial.
Et un truc culturel, patrimonial, qui peut s'inscrire dans l'histoire avec un grand H. Mmh. Même si bien sûr que oui, on peut s'en passer, ça risque des fringues. Faut être conscient de ça et de ce qu'on fait, on sauve pas le monde. Parce qu'on considère que la mode, c'est hors sol et futile, qu'on en a pas besoin, que les gens, c'est que des snobs qui pètent plus haut que leur cul. Sauf qu'en fait, derrière, oui, la robe que tu vois et les 3 paillettes et les 15 minutes de défilé, il y a 1200 personnes qui ont travaillé sur cette collection, qui ont travaillé sur cette robe. Et ces personnes-là, en fait, c'est des histoires, c'est des vies, c'est des savoir-faire. Ça peut être ta sœur, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être ton grand-père. Donc ça, c'est pour les petites mains. Mais le créateur, quand il fait son défilé, pas pour tous, on va mettre des guillemets, on va redescendre aussi, mais il peut y avoir des choses politiques. C'est un médium et tu peux faire passer des messages.
Parce que je trouve que c'est vraiment pas un exercice facile de monter des défilés.
Non, et ce qui est compliqué dans cet exercice, si je reprends le côté oui, hors sol et snob, et c'est ce que je fais aussi dans tous mes montages, c'est dire, ok, voilà, il y a un truc que les gens comprennent pas. Donc la mode, ce créateur, comment on fait cette robe. Et c'est donc comment raconter l'histoire, comment la vulgariser, et quand je dis vulgariser, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est pour capter le plus de monde. Et moi, j'ai envie que le plus de personnes arrivent à se faire capter par le montage que j'aurais fait, par l'histoire qu'on aura voulu raconter avec Loïc, et qui prennent du plaisir, qui on apporte un nouveau regard sur cette chose qui paraît banale et futile, et tu dis ah, ok, j'ai passé un bon moment, ah d'accord, en fait j'ai appris aussi des choses. Et oui, j'ai aussi rigolé, parce que faut rigoler,
apprendre en s'amusant, quoi.
Apprendre en s'amusant, exactement. Et si ça peut aussi donner des vocations, ça c'est génial, parce que tout ce qu'on montre, en fait les gens vont le regarder quoi qu'il arrive, mais on met en avant plein de personnes différentes, plein de mondes différents, plein de parcours différents. Et quand tu poses ton plan sur la timeline, tu me dis si je me trompe, il y a une petite voix derrière toi qui te dit oui, cette image va être regardée. Donc tu apprends aussi à avoir conscience du pouvoir de l'image, et tu sais que bah, en fait, ce personnage, il va parler à plein de gens. Dans mon quotidien, et donc dans le montage, bah, je sème des petites graines.
Oui, il y a quand même des choix qui ont l'air de rien comme ça, mais qui sont politiques. Des fois, quand tu poses...
Quand je commence à
certains endroits, tu sais que tu donnes un certain sens à l'image. Qui peut,
Je donne un certain sens à l'image, et je donne une représentation à des personnes qui n'ont pas forcément l'espace à la télé, ou qui n'ont pas l'espace à la télé pour exister, et ça permet à des minorités de se reconnaître, ah tiens, en fait oui, c'est possible, ça existe,
et ça c'est trop bien.
Et des fois c'est un peu une fierté quand je dis tiens, j'ai mis ce plan, surtout en fait quand les gens autour de moi dans la salle ne s'en rendent pas compte. Et je parle pas du tout de Loïc, parce que Loïc, il a hyper conscience, si tu regardes les 5 minutes, t'as envie de je t'invite à regarder le premier plan des 5 minutes. En fait, on va mettre une mannequin noire. Parce que pendant des années, aujourd'hui, ça va mieux, et heureusement. Mais quand j'ai commencé en 2013, bah, tu regardes les défilés, il n'y avait que des mannequins blanches. Donc c'était un peu problématique. Il y avait aussi des mannequins qui étaient anorexiques. Tout le monde ne fait pas un 32, un 34. Quand il y avait des mannequins noirs, elles n'avaient pas de coiffeur pour elles. Il y a des personnes trans. T'as des personnes LGBTQIA+. Et en fait, voilà, c'est pas un truc de revendication en disant « Tiens, je te pointe du doigt et je te mets cette personne. » Non, elle est au même niveau que tous les autres. Juste, on rééquilibre la balance.
Ouais, c'est une histoire de représentation, quoi.
Ouais, exactement.
Quitte à pousser un peu le curseur, parce que, bah, juste pour compenser les...
Ouais, et puis comme tu dis, pousser, il y a des gens qui vont dire ah ouais, ok, bah, en fait tu commences autant leur montage par une noire, mais pourquoi? Bah en fait c'est juste un rééquilibrage de balance, et si la communauté asiatique apprend cher, et on va te mettre des asiatiques. Si t'as un problème avec les gros, on va te mettre des gros, en fait. C'est t'as des problèmes avec ton petit confort, ta fragilité, t'as l'impression qu'on te bouffe, bah non, pas du tout.
Oui, il y a de la place pour tout le monde.
Il y a de la place pour tout le monde, exactement.
C'est ça. Est-ce que c'est les documentaires de mode qui ont, pour toi, donné un tournant à ta carrière ou qui t'ont installé dans ta carrière?
Le tournant dans ma carrière, c'est ma rencontre avec Loïc, le fait que ça marche hyper bien entre nous, qu'il me fasse confiance et que je m'éclate à faire ça, que lui prenne du plaisir. Donc je pense que cette rencontre, ouais, c'est hyper déterminant dans ma carrière parce que ça m'ouvre la porte du documentaire. Et grâce à ça, j'arrive à monter d'autres documentaires. Donc je rencontre, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Melinda Triana, avec qui on avait monté Les Parisiennes pour Canal+, qui est un peu autour de la mode, mais pas forcément, parce que c'était plutôt des portraits de femmes. Après, j'ai rencontré Sébastien Hadouk, avec qui on avait monté Cagole Forever, qui est un documentaire sur les cagoles à Marseille, qu'est-ce que c'est. Et hyper bienveillant, parce qu'en fait, c'est comme ce que je te disais juste avant, le côté en fait donner la parole à ces femmes qui sont dénigrées et on leur dit bah existez, voilà, vous avez une fenêtre de tir, racontez votre histoire. Suite à ça, donc tout le temps je fais tout le temps du Loïc à 80%, et là chez Bangoumi avec Tristan Le Guillot, qui est un bébé Bangoumi qui arrive en stage chez Bangoumi et qui depuis cette année réalise des documentaires incarné par Maya Mazorette, et on a fait Le Désir des Femmes, et on a fait L'envie de finir Le Désir des Hommes, qui sont des 90 minutes pour TMC. Et dernièrement, j'ai fini le montage d'un documentaire pour France 2, avec Aurélia Perrault, donc qui a été diffusé l'année dernière, qui était en prime time sur France 2, et qui s'appelle Noir en France. Et on s'est bien entendu, et donc là je pars sur son prochain doc qui sera, j'ai pas le titre, Homo en France.
D'accord.
Je sais pas si c'est le titre.
Ok, c'est un titre temporaire.
Mais un titre temporaire, mais du coup qui me convient bien par rapport à tout ce que je t'ai raconté.
Oui. Ouais, oh, c'est trop bien. Et ça, c'est pour France 2 aussi?
France 2, à 90 minutes, qui sera diffusé en prime.
Trop bien. Maintenant, tu vas un peu plus loin que le montage. Est-ce que tu as toujours eu cette envie de passer à la réal, ou comment c'est venu en fait?
Le versant en fait de passer beaucoup de temps en montage, c'est que tu comprends comment être efficace en tournage. Tu apprends à savoir quelle image tu as besoin pour raconter ton histoire, pour illustrer ton propos, comment rentrer dans une séquence, finir une séquence, comment faire ton cadre. Donc tu apprends ça à force de regarder différents rushs, mais de différentes personnes. Et tu comprends qui est plus efficace sur quoi. Et j'ai eu des opportunités, on m'a dit, et notamment Loïc, une fois il cherchait un cadreur, il m'a dit, tiens, tu connais l'exercice, tu sais ce que j'attends d'un cadreur, est-ce que tu veux venir? Et donc j'ai commencé en fait à tourner des défilés de mode.
Et tu connaissais déjà les caméras, et enfin, tu t'avais déjà pratiqué un peu, ou tu étais vraiment parti comme ça en disant bon allez, il y a le point là, il y a machin, et
un peu la fleur au fusil aussi. Mais j'ai un truc dans, quand je prends des décisions professionnelles et personnelles, j'ai un petit côté j'y vais, pas kamikaze, je sais, non ça je sais pas faire, mais quand je me dis ah ouais tiens peut-être ok c'est un défi, et en fait bon allez Anthony, t'y vas, tu mets ton armure et tu peux le faire. Enfin, peut-être que tu vas te chier dessus. Mais si tu le fais, si on te donne l'opportunité et que tu te sens capable, vas-y. Même si bah, t'apprends et tu peux être mauvais et que c'est pas grave. Et c'est surtout qu'en fait, ces expériences n'avaient pas un enjeu dramatique. C'est-à-dire que j'étais pas tout seul à un tournage. C'est moi qui allais monter mes images. Donc je savais. J'étais un peu dans un confort. Et en fait, la première fois où je me suis vraiment retrouvé tout seul, c'était donc là, la boîte de prod de Mademoiselle Agnès, qui me voit un peu touché à tout, être hyper curieux, et qui me dit mais ça te dirait pas de monter un sujet pour une émission qui s'appelle La Mode, la Mode? que tu es sur Paris Première. Je dis, bah ouais, j'ai jamais fait d'exercice, je suis pas journaliste, mais pourquoi pas. Et donc en fait, j'ai fait mon premier sujet, je suis parti sur une fashion week tout seul, avec ma petite caméra que je connaissais pas. J'avais bidouillé la veille pour comprendre plutôt la technique que le... Même si j'avais fait un peu au lycée, c'était pas, ça avait évolué depuis. Et du coup, je suis parti tout seul. Et puis, il y a eu des ratés. Il y a eu des choses plus sympathiques. Il y a aussi la barrière de la langue, parce que c'est beaucoup en anglais. Je suis pas un ouf en anglais.
Tu fais des progrès depuis, non?
À verbaliser, non. À l'écoute, ouais, beaucoup. Et ce qui est aussi avantageux, c'est que comme c'est toutes les nationalités, tout le monde parle anglais avec des accents pourris, donc en fait ça va, tu comprends. Et j'ai monté mon premier sujet comme ça. Et non, et récemment, comme je suis hyper curieux, je reviens sur mon truc, sur Insta, je suis les créateurs, des petits gens dans les maisons de couture pour voir comment ça se fait et tout. J'ai un côté, pas je stalke, mais ça me nourrit même pour me raconter une histoire. Et j'ai un petit jeune qui me dit, est-ce que tu veux venir, je fais mon premier défilé. Donc c'était en mars 2020. Vu comment ça s'annonce, c'est peut-être ma seule fenêtre de tir pour encore vivre un truc. Le monde allait être confiné. Et je dis, bon bah j'y vais. Donc c'est un petit qui s'appelle Victor Vincento. J'arrive au défilé, il y a Jean-Paul Gaultier. Je le vois un peu... manipulé, c'était vraiment hyper intime, il faisait ça avec 2 francs 6 sous. Ça m'a éclaté, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit est-ce que je peux venir avec toi en backstage filmer. Le défilé se passe, je filme Jean-Paul Gaultier qui est là, qui rigole, qui passe à mon moment. Et à la fin en fait, j'attrape Jean-Paul Gaultier et je fais une mini interview avec mon téléphone. Et j'envoie des bouts à Loïc, il me dit ah mais c'est génial, trop bien. Et en fait on prend toutes ces images et on fait un sujet pour 5 minutes de mode qui est diffusé sur TMC. Et donc se naît une relation avec ce créateur. Et quand on sort de tout le confinement et qu'il me dit bah en fait est-ce que tu veux filmer, faire la captation de mon défilé. Et je lui dis bah ouais moi ça m'éclate. J'avais jamais fait d'exercice. Prendre la bonne image et après le raconter, que tu comprennes l'espace où t'es, que tu mettes en valeur le processus, la robe. Et donc je le fais et ça marche hyper bien. Et il me rappelle la saison d'après, sauf qu'on est en Covid, qu'il n'y a pas vraiment de défilé et que c'est que du digital. Mmh. Et il me dit, bah en fait voilà, j'ai 35 looks ou 38, je sais plus. On n'a qu'une journée de tournage. C'est pas vraiment défilé. Faut qu'on raconte une histoire. On a un lieu qui est plutôt grand avec beaucoup de salles et il faudrait voilà, on tourne le dimanche et il faudrait qu'à 9h le lendemain il y a la vidéo. Et donc me voilà à faire des mood boards, à chercher sur internet parce que comme j'ai pas fini mes études, comme j'ai pas un cercle proche qui fait de la fiction. Donc j'ai cherché tout seul, on me dit d'accord, ok, mood board, donc ça je fais ça, ok, je vais lui présenter ça. Ah, valeur de plan, un peu storyboard, ok, donc il faut que je lui présente ça. Et je me retrouve ce dimanche-là, donc j'avais quand même un cadreur avec moi, j'avais un retour moniteur pour le client, et en fait je me retrouve au milieu de 150 personnes, donc un plateau, à driver les mannequins, qui passe devant moi, mais comme un, je sais pas, une pub, une fiction, j'ai pas les mots parce que j'ai jamais connu ça en fait. Et il y a un moment qui était vraiment où j'ai ri, en fait je me suis tapé un fou rire. À la fin de la vidéo, on met tous les mannequins ensemble, le créateur il vient, donc ça c'était un plan qu'on a fait plutôt au milieu de journée, et il y a vraiment sur le plateau, t'as 15 personnes. Sauf qu'autour, il y a 60 personnes. Et en fait, tout le monde, il y a un silence de mort. Et tout le monde entend mes ordres. Et je me dis, mais en fait, c'est surréaliste. Et vraiment, j'explose de rire parce que la situation, c'est n'importe quoi. Il y a un mois, il y a 2 mois, et même la semaine qui va suivre après, je serai tout seul dans ma salle de montage. Et là, je me retrouve à arriver 20 personnes devant 50 personnes. Et comme les timings étaient serrés, j'avais mon chéri, Yann Catolino, qui était en fait en spare derrière moi. On déchargeait les cartes. Et en fait, j'avais fait un ours, mais avec des photos. J'avais déjà musiqué tout ça. Et en fait, il me faisait toute la post-prod. Et il commençait à pré-monter. Et moi, à la fin de ma journée de tournage, hop, montage, tac, et à 9h, vidéo livrée, et bonheur.
Ok, oui, très peu de sommeil. Et,
Et j'ai quand même dormi. Beaucoup d'adrénaline.
Ok, et du coup, depuis, t'en as refait, et c'est devenu un peu...
Et en fait, j'avais eu un client, et la dernière saison où j'ai fait du coup, des vidéos de mode en tant que réalisateur et non pas en tant que monteur, même si la casquette, des fois, elle est hyper proche. Bah, j'avais 5 clients. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est cool. On a fait le tour. Bon, bah, cut alors.
Cut. Bravo Yasmina.
Les post cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt !